Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou.
Dernière nouvelle des choses, un livre de Roger Paul Droit. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Il est un objet de notre quotidien qui a peut-être un peu perdu de son omniprésence depuis le mois de mars de cette année. C'est le réveil, celui qui sonne tous les matins et qui nous fait abandonner à regret notre petit lit douillet. Si tant est qu'il a été pour beaucoup d'entre nous moins indispensable ces derniers temps, il n'en reste pas moins le gendarme de nos nuits. Voici le regard impitoyable de Roger Paul Droit sur le réveil, et il sera aussi question de l'emprise du temps sur nos vies. À la maison, un matin tôt. Déchirure brutale. Le cours paisible du sang brusquement défait par une estafilade. Comme quand on se coupe en épluchant des légumes ou en se rasant. Rien de grave, pas de douleur forte, mais la chair ouverte, écorchée en surface. Quand le réveil sonne, c'est comme ça. Suite de stridence suraiguë, monocorde, coup d'épingle au-dedans du cerveau. D'après ce que j'entrevois, il doit être 6h46. Si le réveil se déclenche à 6h46, il doit y avoir une raison. Je dois arriver à la retrouver. Pas vraiment. Pas encore. Pas du tout. Pas tout de suite. Ah si, je dois prendre un train tout à l'heure. En matière de réveil, étant donné mes difficultés à les entendre, j'ai à peu près tout essayé. Ceux à tic-tac, qui empêchent de dormir, les lumineux qui éblouissent, les mélodieux qui ne réveillent pas, les radios qui angoissent, les disques qui entretiennent la confusion. Finalement, je préfère m'en tenir aux sonneries suraiguës incluses dans ma montre. Elles ne font pas semblant d'informer ou de jouer de la musique. Elles se dispensent de tutoyer le client, de l'aigu, rien que de l'aigu, et qui vrille le tympan jusqu'à ce qu'on ait l'œil ouvert. Violence claire, affichée. Il n'y a de naturel que l'éveil survenant seul, de soi-même, au terme du sommeil, comme son trop-plein. Achèvement et désaveu, retour du jour, éclosion de la lumière, recomposition du monde, par bribes, en douceur. Être éveillé à une heure fixée d'avance est une intrusion violente. Très commune, je sais bien. Utile, je le concède, cela ne diminue en rien la violence en question. Ce qui vous tire du sommeil, bientôt du lit, tout à l'heure de chez vous, c'est une puissante coordination sociale. Ça sonne parce qu'il vous faut aller au travail, réveiller les enfants qui partent pour l'école, prendre le train, le métro, l'avion, pointer à l'usine, arriver au bureau, être là où l'on est attendu, où d'autres vous réclament et vous surveillent. Cela exige un gigantesque contrôle des gestes et des trajectoires, discipline de plus en plus serrée, de plus en plus fine. On appelle dans les temps anciens une troupe entière, village ou armée, d'un coup de cloche ou de trompe. Les occasions sont rares, les habitations groupées. L'histoire des sociétés modernes, naissance, évolution, c'est l'emprise progressive de l'heure exacte sur les vies humaines. Le monde que nous connaissons résulte d'une immense horlogisation. Quand s'est installée sur la Grand Place, au cœur de la ville, la première horloge mécanique ? En Chine, en Afrique, en Orient ? Quels en ont été les effets ? Comment s'y prend-on pour faire tenir tous ces corps dans les mailles du réseau ? Tant de gens divers, de peuples distincts, au rythme disparate, comment les contraindre ? Il nous paraît simple que le réveil sonne, que les informations commencent à heure fixe, que les transports démarrent ou arrivent à 32 ou à 27, voire à 58. Combien faut-il pour ce résultat de siècles de dressage et de générations lentement domestiquées, pliées au respect de l'heure ? Les choses à compter le temps petit à petit s'accrochent à nous. On voit d'abord de loin la grande horloge de la place du marché. On voit chez soi celle de la cheminée ou de la cuisine, bientôt de la table de nuit. Les riches, ensuite, ont une montre dans leur poche qu'ils extraient de temps à autre de son gousset, d'un geste encore gourmand, presque étonné. Et la montre se fixe enfin au bracelet de tous, dans le monde entier, sous toute latitude, sur tout continent, à quartz à présent, digital avec les secondes. Elle accompagne tous les instants du jour, trajet, travail, loisir, au poignet, attaché, attachante. La montre tient le corps et l'âme tout entier contraint à l'observance d'un temps étroit et régulé. Mettre sa montre le matin, c'est comme endosser une chape de devoir minuté. La montre produit le poids du temps qui par lui-même ne pèse rien. La chose qui m'a réveillée est en principe indéréglable, pilotée à distance par un centre qui corrige ses éventuelles variations. Jamais en retard ni en avance, toujours exacte. Y a-t-il une différence entre nos montres et les bracelets électroniques de contrôle imposés aux détenus purgeant leur peine à domicile ? Oui, quand même. J'enlève ma montre pour entrer dans quelques-uns des mondes à pression temporelle faible. Celui où l'on fait l'amour, celui où l'on est dans l'eau, celui où l'on dort. Il est possible de hurler à la manipulation universelle. Est-il néfaste que tant de choses soient effectivement téléguidées ? C'est encore nous qui décidons de gémir ou non.
Rendez-vous demain avec un autre objet.